Il y a quelque temps, nous avons perdu un ami au Canada. Nous n'étions pas dans le premier cercle et nous avions des nouvelles par des amis communs. Comme pour beaucoup, pour tous les décès que nous avons vécus pendant cette pandémie, nous n'avons pas pu rejoindre les amis, la famille, pour dire un dernier adieu à la personne qui est partie. Pour cet ami du Canada qui avait un cancer, nous avons eu des nouvelles régulières jusqu'à la fin, et puis plus rien. Nous avons su qu'il était mort, mais nous n'avons pas eu d'informations sur la pas de nouvelles après coup de l'accompagnement de sa femme, de sa famille, et nous sommes restés comme suspendus. Je me suis demandé pourquoi notre ami était mort, c'était fini. Alors j'ai compris ce qui nous manquait. Une parole, un récit. Nous étions dans le vide. Nous avons été dans le vide vendredi, quand nous avons entendu à nouveau les récits de la passion du Christ. Nous avons vécu ce moment avec les récits de l'évangile de Jean. Il présente un Jésus différent des autres évangiles. Volontaire qui se livre lui-même, qui discute avec Pilate, et sur la croix, il meurt en disant « Tout est achevé » et il remet l'esprit. C'est le seul évangile qui fait dire cela à Jésus. C'est très mystérieux de dire cela. En français, il y a une expression qui dit « Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. » Tant que la vie est là, il y a encore une parole à dire, un sourire à donner, l'instant vivant à attendre. Quel que soit l'âge d'une personne, de l'enfant au centenaire, la vie porte une force qui fait toujours aller de l'avant. Jusqu'au dernier moment, notre vie peut encore espérer le pas suivant. Tout est achevé. Hier, c'était la journée du vide. C'est difficile de vivre pleinement ce temps de silence du samedi saint. Car la vie du monde nous happe et nous rattrape. Qu'est-ce que cela nous fait que Jésus soit mort? Certains diront qu'ils n'ont pas envie de s'attarder sur cette tristesse car ils en ont déjà suffisamment comme ça. Pâques aurait-il un sens si nous passions rapidement sur la mort de Jésus en fermant les yeux? Toutes nos tristesses, nos blessures, nos difficultés, ne sont-elles pas récapitulées dans cette mort que Jésus a traversée? Jésus a été le premier-né de sa mère terrestre. Il devient le premier-né de son Père céleste, le premier-né d'entre les morts. Jésus, parole de Dieu faite chair, a été tué. Sa vie terrestre est achevée. Il en commence une nouvelle, mystérieuse, éternelle. Il devient pleinement présent, autrement. Jésus est ressuscité pour nous dire que la mort n'est pas la fin de tout, que la mort n'a pas le dernier mot. La mort n'a pas le dernier mot. Le vide n'a pas le dernier mot. Il y a encore un mot à dire. Alors en ce moment, ce qui nous manque le plus dans les enterrements, c'est de ne pas pouvoir se réunir après le service, ne pas pouvoir échanger des mots et des récits, raconter des souvenirs qui reviennent, raconter la fin, raconter comment on a vécu ce qui devient les derniers moments passés. Les mots nous aident à faire le chemin. Les mots permettent à une parole d'advenir, une parole de consolation. La mort n'a pas le dernier mot. Jésus a été relevé par Dieu dans un amour infini, dans un amour qui se dit, un amour qui se communique à tous dans une parole universelle. Jésus est aujourd'hui parole de Dieu vivante et éternelle. Dieu a créé le monde par sa parole, il a créé la vie par sa parole. Et il fait de nous des êtres de parole. Comme le dit Ésaïe, sa parole ne vient pas sur la terre sans produire du fruit et de la vie. Dieu a ressuscité Jésus par sa parole, C'est la puissance la plus forte de son amour. Vous cherchez Jésus, le crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Que cherchons-nous? Qu'attendons-nous? Il vous précède. On cherche une image figée, mais il devient présence vivante, il devient elle. La parole de Dieu nous précède toujours. La première parole qui est dite aux femmes, c'est « Ne soyez pas effrayés, ne soyez pas saisis de stupeur », parce que juste avant, c'est le mot utilisé pour parler d'elles. C'est un mot plus fort qu'avoir peur. Elles sont comme paralysées. Et vous l'avez entendu, le passage se termine par « Elle ne dit rien à personne, car elles avaient peur. » La première version de l'évangile de Marc se terminait comme ça, sur la peur. Comment laisser se dire ainsi la bonne nouvelle? Comment terminer avec ce mot de peur? Alors, il y a eu une deuxième finale, qui est la suite. On a rajouté un paragraphe au IIe siècle qui résume les apparitions de Jésus et l'envoi en mission des disciples. En réponse au vide laissé par la peur, des mots ont été nécessaires pour clore l'histoire, pour qu'elle ne reste pas suspendue. La parole de Dieu nous précède toujours. Comment la voir? Comment l'entendre? Comment la reconnaître? Cette parole ouvre nos tombeaux, cette parole nous appelle à vivre inlassablement. C'est une parole extérieure qui parle à l'intérieur de nous. Elle parle à nos cœurs, elle parle à notre esprit, elle nous inspire. Et c'est une inspiration qui est infinie, qui se peut se manifester par des paroles qui nous sont données à nous, mais aussi par d'autres formes, artistiques par exemple. Nous connaissons la force d'une parole, aussi bien pour faire du bien que pour faire du mal. La force des mots dépasse l'usage qu'on en fait. En ce moment, en France, on voit des affiches du Secours populaire. Ces affiches veulent attirer l'attention sur la pauvreté des enfants à l'occasion du 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant. Ne lui collez pas une étiquette pour toujours, s'intitule cette campagne. Et on voit un enfant avec une étiquette sur le front où il est écrit « pauvre ». Pensons aussi à la force d'un mot, comme celui qui est prononcé lors d'un mariage. Un simple « oui » suffit pour un engagement de toute la vie, même si évidemment la signature est vient le confirmer. Un autre exemple, les paroles de bénédiction que nous recevons à la fin du culte, eh bien c'est ce qu'on appelle une parole performative, une parole qui fait ce qu'elle dit, qui accomplit ce qu'elle dit. Nous serons bénis. La force de résurrection, c'est savoir que dès aujourd'hui, les mots sont à notre service pour ouvrir à la vie. C'est notre choix, c'est notre liberté. Alors, pour terminer ce message de Pâques, comme c'est aujourd'hui jour de fête, je voudrais partager avec vous un texte sur la fête qui m'a toujours stimulée et encouragée. C'est un texte de Charles Singer. Croire que la danse est plus forte que la paralysie de l'angoisse. Croire que tous les mauvais esprits qui hantent l'humanité peuvent être réduits à néant. Croire que la chasse à la mort est possible. Croire que la réalité n'est pas forcément celle que l'on voit. Croire que Dieu règne sur les pavés tortueux du monde. Posséder l'extrême lucidité qui discerne au cœur des ténèbres et des toiles d'araignée la petite lumière susceptible d'éclairer toute la maison. Croire me pousse à l'audace de la fête. Viens, mon frère, ma sœur, on va faire un coup d'audace, on ne va pas faire semblant d'éliminer l'angoisse et les cris de la réalité, mais on va y semer des graines de folie. Et tu le sais, si les graines meurent, viens, on va chanter la folie incurable de Dieu, persistant à se laisser clouer sans arrêt sur toutes les croix humaines. Viens, on va chanter la folie incurable des humains, persistant à émerger sans arrêt de ces marécages. Viens, on va sonner les matines pour la foi et l'amour. Viens, mon frère, ma sœur, on va faire une folie, on va saisir la fête. On va l'ouvrir pour que chacun se serve à pleine main et à plein cœur. Viens, nous ne connaîtrons plus le repos, nous serons jetés dehors, là où les humains vivent, luttent, aiment, meurent, pour y crier que l'espérance à jamais reste chevillée à la terre.